ici, la Voix de l'Amérique.
Au sommaire ce soir, une semaine avant la Coupe du monde de football au Brésil, où en est le pays organisateur avec ses préparatifs et quelle sélection a le plus de chances de soulever le trophée cette année? Une semaine en Afrique, c'est Washington Forum qui commence.
On y est presque. De la Côte d'Ivoire au Mexique, de l'Espagne à l'Australie, la planète entière s'apprête à suivre la Coupe du monde, le plus souvent dans l'enthousiasme, et même si certains au Brésil font valoir qu'il y a de meilleures façons d'investir les deniers publics. Quels enjeux pour cette Coupe du monde et quelle sélection saura tirer son épingle du jeu? Nos pronostics dans ce Washington Forum.
Washington Forum.
Robert Daguiar à Washington avec ici en studio les reporters sportifs de la VOA pour un avant-goût de la Coupe du Monde qui débute le 12 juin et prend fin le 13 juillet. Mais d'abord un aperçu sur les préparatifs et la course contre la montre pour que tout soit prêt au Brésil d'ici une semaine. Éclairage de Nicolas Pineau.
Quel visage offrira le Brésil lors de cette Coupe du Monde? Un décor de carte postale pour tous les fans de football venus du monde entier ou un pays en ébullition. Les Brésiliens se font entendre depuis plus d'un an pour protester contre le coût faramineux de l'événement, plus de 12 milliards de dollars. Il y a longtemps que le trophée ne fait plus rêver au pays au Riverdé. La présidente Dilma Rousseff, en piste pour une réélection cet automne, se veut rassurante sur le bon déroulement de la compétition.
Aos brasileiros e aos estrangeiros que nos visitarem.
Aux Brésiliens et aux touristes étrangers, je peux vous garantir que la sécurité sera assurée. Vous aurez la tranquillité pour apprécier les matchs, la fête et nos paysages naturels.
E os passeios para conhecer as nossas belezas.
Le Brésil met les bouchées doubles à quelques jours du match d'ouverture. Certains stades, comme à Sao Paulo, ne sont pas prêts. Manque de sièges, toits défectueux, sans compter les 8 ouvriers qui ont perdu la vie sur les chantiers. Le mouvement contre la Coupe du Monde a promis de continuer à manifester durant le Mondial. Récemment, le bus de la Seleção a été bloqué à Rio. Les enseignants, comme tant d'autres, réclament des investissements utiles dans les services publics plutôt que dans les stades. 64 ans après la dernière Coupe du Monde au Brésil, le temple du football, les Brésiliens sont amers, entre amour du ballon rond et protestations sociales.
J'adore le foot, les Brésiliens aussi, mais je ne pense pas que ce soit le bon moment. Peut-être que Rio de Janeiro n'a pas les problèmes que nous avons ici, mais à Sao Paulo, nous vivons dans des conditions difficiles.
Le coup d'envoi du Mondial sera donné le 12 juin prochain à Sao Paulo entre le Brésil et la Croatie. Pas sûr que le coup de sifflet de l'arbitre ne fasse taire les contestataires.
Alors avec nous ici en studio à Washington Forum, mes collègues du service francophone Bagassi Koura, le présentateur de Sporama à la radio de la VOA, ainsi que le susnommé Nicolas Pineau. Vous serez au Brésil pour toute la durée de la compétition, vous partez dimanche. Alors d'abord un petit mot Nicolas sur votre itinéraire pendant cette compétition.
Eh bien évidemment on va commencer par Sao Paulo, là où aura lieu le match d'ouverture le 12 juin Croatie-Brésil. Et puis après, on va suivre notamment le premier tour de la Côte d'Ivoire, notamment à Recife. Et puis après, je continuerai notamment sur Manaus. On ira aussi à Brasilia, à Rio. Et puis on continuera évidemment pour les quarts de finale jusqu'à Fortaleza, la demi-finale à Belo Horizonte, pour revenir évidemment au Maracana pour la
stade
finale.
Stade mythique,
tout à fait.
Alors, on va parler des équipes africaines de la Côte d'Ivoire, entre autres, plutôt en deuxième partie d'émission. Mais commençons avec le groupe A, Bagassi. Vous savez que le Brésil affronte la Croatie, match d'ouverture. Alors évidemment, le Brésil, pays organisateur, la Seleção doit répondre aux attentes d'un pays entier.
Oui, et c'est difficile à imaginer un Brésil qui s'est fait battre d'entrée de jeu par la Croatie avec tous les problèmes, toutes ces manifestations qu'on voit déjà dans les rues. Ça risque d'ajouter à la colère populaire. Donc on espère bien que le Brésil sera au-dessus du jeu et pourra peut-être rassurer son public et cela peut aider avec les manifestations de rue.
Alors Nicolas, vous y faisiez allusion dans votre reportage. C'est la première fois depuis 64 ans que le Brésil accueille une Coupe du Monde. Il y a évidemment une blessure à réparer, la blessure de 1950, ce but de fin de match contre l'Uruguay qui a donné le titre à l'Uruguay justement.
Tout à fait.
Est-ce que vous sentez, je sais que bon, on est ici à Washington, mais est-ce que vous pensez que la blessure reste encore à cicatriser, que ça pèse encore sur le psyché collectif des Brésiliens.
Oui, je pense que tous les fans de football au Brésil ont envie de remporter une Coupe du Monde à domicile.
De toute façon.
On a vu de nombreux pays, notamment en France en 1998. C'est toujours un événement exceptionnel. Et oui, dans cet imaginaire collectif brésilien, il y a cette blessure à réparer. Mais c'est vrai que Bagassi le soulignait, notamment avec les mouvements de rue. Dans certaines villes, notamment à Sao Paulo, dans le centre-ville, on a encore du mal à sentir que c'est la Coupe du Monde. Hein. Il y a quand même la contestation sociale pour les dépenses qui ont été occasionnées.
Et les dépenses. Alors je vous arrête ici parce que justement, on a préparé deux tables pour cette émission. Alors, évidemment, quelques chiffres. D'abord, le coût de cette Coupe du Monde pour le Brésil. Plus de 11 milliards de dollars pour la préparation de cette Coupe du Monde. Évidemment, ça pose des questions considérables en termes de préparation, en termes de priorité pour le gouvernement brésilien. Et deuxièmement, une deuxième table qui montre la très nette désaffection du public brésilien. Ils étaient 79% à se dire satisfaits de l'attribution de la Coupe du Monde du Mondial au Brésil en 79. Et maintenant, aux pays organisateurs, ils ne sont plus que 48% à se dire satisfait. Alors évidemment, ça pose des questions considérables en termes de priorité, en termes de dépenses publiques. Vous avez très bien montré la désaffection du public brésilien dans votre reportage. J'aimerais quand même continuer, parce qu'évidemment, on a beaucoup de terrain à couvrir, à parler football.
Je voulais juste ajouter, concernant l'Uruguay, ils disent qu'on revient, on va retrouver le Brésil, on espère retrouver le Brésil au Maracana, au soir du 13 juillet, et on va reprendre la Coupe une deuxième fois au Brésil. Et donc,
Un Uruguay qu'on n'a pas vu à ce niveau depuis des années, d'ailleurs. Ils sont très confiants cette
année. Ils sont vraiment très motivés. Ils croient que le destin est de leur côté. Quoi.
Absolument. Bah, c'est la beauté du sport, c'est l'incertitude. Ouais. Dernière question sur le groupe A, quand même. Alors, le Brésil affronte le Cameroun le 23 juin. Qu'attendez-vous des Lions indomptables cette année?
Ça va être quand même le match, l'un des matchs chocs de ce premier tour, hein, le Brésil contre le Cameroun, parce que l'équipe du Brésil qu'on a vu jouer contre la Mannschaft, la sélection allemande la dernière fois, elle a rassuré son public, elle a rassuré le public africain, elle a montré qu'elle avait un fond de jeu. Et généralement, les Camerounais ils jouent quand même avec une certaine détermination quand l'équipe est bien en forme, et ce qui est le cas. Et on pense qu'ils vont livrer un très grand match contre le Brésil. Et pourquoi pas gagner?
Bien sûr. Alors, autre choc, Nicolas, le groupe B, 13 juin à Salvador, Espagne-Pays-Bas, le champion du monde en titre contre son dauphin. Ça promet.
Et oui, puis c'est aussi évidemment la revanche de cette finale, bien qui n'était pas la plus belle des finales, on s'en souvient, à Johannesburg. Au stade de
bien
Soweto.
Bien que la meilleure équipe l'ait emporté quand même.
L'équipe espagnole était la meilleure du monde à l'époque, et l'est toujours. L'équipe espagnole qui a quand même changé, hein, cette génération, avec ce jeu alléchant, la Roja, justement, qui n'est pas forcément au mieux, hein, au niveau, évidemment, état de santé. Moi, j'ai un petit doute, et je pense que notamment les Oranges, hein, les Batav auront à cœur de l'emporter et de prendre leur revanche sur cette équipe espagnole.
Bah justement, parlons des Espagnols qu'on a vu perdre la finale de la Coupe des Confédérations, assez nettement d'ailleurs, contre le pays organisateur, le Brésil, l'année dernière. Vous savez, le jeu espagnol est très centré justement sur la possession du ballon. C'est un jeu qui demande beaucoup, beaucoup de concentration. Pensez-vous que ce système puisse fonctionner pour un quatrième grand tournoi d'affilée?
C'est fort possible, mais il faut dire que une fois que vous remportez le trophée un certain nombre de fois, tout le monde vous attend au tournant. Et ça va être... l'Espagne est maintenant la cible de toutes les grandes équipes, que ce soit le Portugal, que ce soit le Brésil ou même l'Argentine. Tout le monde a eu le temps de les voir jouer tous ces grands matchs. Et ça va être quand même difficile qu'ils reviennent...
Et puis c'est assez symptomatique, hein, mais l'équipe d'Espagne qui est majoritairement composée des joueurs notamment du Barça et du Real de Madrid, on a vu notamment l'équipe du FC Barcelone qui était en fin de cycle, et on peut légitimement penser que cette équipe espagnole est en fin de cycle. Ce serait quand même extraordinaire de remporter deux championnats d'Europe et de remporter deux Coupes du Monde d'affilée.
Sans précédent.
On peut quand même penser que ce sera une fin de cycle. Ce serait une grosse surprise si en tout cas l'Espagne allait... Au minimum en finale.
Oui. Alors, je ne veux pas sauter les étapes, mais je veux passer quand même tout de suite au groupe G, où on retrouve non pas une, mais deux grosses cylindrées. Bon, il y a en fait certains de nos collègues qui parlent à tort ou à raison d'un groupe de la mort dans ce groupe G. Il y a l'Allemagne et le Portugal. On parlera plus tard des États-Unis et du Ghana, mais enfin, Allemagne-Portugal, voulez-vous me parler un peu des perspectives de ces deux équipes? Commencez avec Bagassi.
Le Portugal... quand même, c'est l'équipe que tout le monde voit en ce moment, qui donne assez d'espoir concernant leur jeu, notamment Cristiano Ronaldo. Mais les dernières nouvelles concernant ce joueur ne sont pas très bonnes puisqu'il souffre à la cuisse et au genou. Donc, si vous prenez Cristiano Ronaldo hors du Portugal, je me dis que ça donne un grand avantage à l'Allemagne. Donc, un match Allemagne-Portugal, ça va être des systèmes de jeu totalement différents. Et l'Allemagne, on ne l'a pas vu ces dernières années, notamment ces quatre dernières années, et on ne sait pas exactement quelle est la forme de la Mannschaft, et ce serait bien de...
Mais est-ce qu'au fond, l'Allemagne de Joachim Löw, bon, c'est un entraîneur qui aime le jeu offensif, c'est un entraîneur qui a des années d'expérience, il sera là au moins jusqu'en 2016. Pensez-vous que c'est au fond le technicien d'une grande génération qui n'a jamais réussi à trouver la clé? Parce que les Allemands, on les voit toujours arriver en demi-finale des grands tournois, en finale des grands tournois, et quelque part, il y a toujours quelque chose qui manque. Ils échouent toujours contre l'Espagne ou bien...
Oui, c'est une bonne remarque, mais c'est une remarque qui pourrait aussi s'appliquer au Portugal. Les Portugais, ils sont toujours menaçants, mais ils n'ont jamais rien gagné vraiment, et c'est... Il y avait jusqu'à l'Espagne, jusqu'au titre, évidemment, en 2010, il y avait cette grande déception. Mais les Portugais, c'est pareil. Hein. Cristiano Ronaldo, c'est la star planétaire incontournable. Mais l'équipe portugaise, en tout cas, n'a jamais vraiment été sur un podium.
Peut-être que c'est leur année, leur Coupe du Monde, et ils pourront aller loin.
Hein. Alors, j'aimerais qu'on parle quand même, dernière question sur le Portugal, j'aimerais quand même qu'on parle des autres stars, des autres cadres de cette équipe portugaise, parce que j'aimerais pas qu'on réduise quand même l'équipe du Portugal au simple Cristiano Ronaldo. CR7, bon, avec tout le talent qu'on lui doit, mais enfin, qui peut aider à amener le Portugal en finale de la Coupe du Monde?
Ouais. Je pense qu'ils ont quand même assez de cadres qui jouent au très haut niveau en Europe, hein, et donc... Si tout le monde est réduit à parler de Cristiano Ronaldo, c'est parce qu'à chaque situation où il se trouve, c'est lui qui arrive à quand même marquer les buts et il arrive à se distinguer, quelles que soient les difficultés. Mm-hmm. Et il pourra faire la différence. Quand une équipe sans Cristiano Ronaldo, ça va être toujours, ça fera toujours une grande différence.
Ça fait la différence entre une grande équipe et une équipe moyenne, c'est ça que vous voulez dire?
Ouais. Ouais, d'accord. Ouais. C'est un peu comme le PSG sans Ibrahimovic.
Oui, ouais. Voilà, exactement. Qui ne participe malheureusement pas à la Coupe du Monde. Eh bien... Nous allons marquer une pause. Washington Forum, émission consacrée cette semaine à la Coupe du Monde de football qui s'ouvre dans une semaine au Brésil, à São Paulo. De retour dans une minute. Restez avec nous.
Non-stop, VOA Brésil 2014.com.
Washington Forum sur la voie de l'Amérique, Brésil et Coupe du Monde. Il n'en fallait pas plus que ces quelques mots pour déclencher une avalanche de commentaires et de pronostics sur la page Facebook de Washington Forum. Dans l'ensemble, amis téléspectateurs, vous souhaitez de la réussite aux équipes subsahariennes, mais vous ne croyez pas trop à leur chance de succès. On commence avec Omar Ateye de Djibouti. L'injustice. 5 équipes pour 50 pays d'Afrique contre 13 pour 35 pays d'Europe. Pour Thierno Sanoussi Diallo de Bissau en Guinée-Bissau, pour ma part, je miserai sur deux équipes, la France et le pays organisateur, le Brésil. L'Afrique, désolé, je ne vois aucune équipe capable de nous soulever cette première Coupe du Monde. Pour Richard Zongo de Ouagadougou, je suis africain, mais hey, il y a la réalité en face. Pour ma part, je vois le Brésil ou l'Allemagne. Et enfin, last but not least, Alphonse Mbouaki, le super fan de la VO, le prix du super fan avec la bagatelle de 19 commentaires sur les 59 qu'on a eu cette semaine sur la page Facebook. La dernière émission mondiale en 2010 en RSA, les Black Stars du Ghana nourrissent l'Afrique d'espoir plus que les Fennecs de l'Algérie, plus que les Super Eagles du Nigeria, plus que les éléphants de la Côte d'Ivoire et les lions indomptables du Cameroun. Eh bien, personne ne place les États-Unis parmi les favoris de cette Coupe du Monde, mais les US ont le sélectionneur qui s'appelle Jürgen Klinsmann, attaquant vedette de l'équipe d'Allemagne en son temps, champion du monde 1990, optimiste s'il en est. La VOA est allée voir les préparatifs de l'équipe américaine. Roger Mouto est ici avec nous en studio pour nous en dire plus.
Le stade Red Bull de Harrison est dans l'état de New Jersey, non loin de New York. C'est l'un des terrains d'entraînement de l'équipe américaine avant le mondial brésilien. Ce jour-là, l'équipe préparait sa rencontre amicale du 1er juin contre la Turquie, un match qu'elle a remporté par 2-1. La presse a été autorisée à une séance d'exercice léger. L'entraînement plus intense s'est déroulé à l'abri des caméras. Quelques heures plus tard, dans une chambre d'hôtel de New York, l'entraîneur Jürgen Klinsmann et le capitaine de l'équipe, Clint Dempsey, parlent du mondial. Klinsmann, ancien joueur et coach allemand, a été nommé entraîneur principal des États-Unis en 2011. Il a conduit les Américains à leur 7e Coupe du Monde. Il est confiant, même si ses poulains figurent dans le groupe de la mort en compagnie de l'Allemagne, le Portugal et le Ghana.
C'est un tirage très difficile. C'est un groupe difficile, mais nous espérons atteindre la phase d'élimination directe. Nous devons donc trouver un moyen de le faire. C'est sur cela que nous travaillons. Nous pensons que nous pouvons absolument aller au tour suivant. Aurons-nous des matchs difficiles, des matchs serrés? Absolument. C'est cela la Coupe du Monde.
L'attaquant Clint Dempsey est bien respecté par ses coéquipiers. Être nommé capitaine de l'équipe des États-Unis est un énorme honneur, dit-il.
Chaque fois que vous pouvez aller à une Coupe du Monde comme capitaine de votre pays, c'est quelque chose de très spécial que vous n'oublierez jamais. Une fois que Jorgen m'a nommé capitaine, j'ai fait de mon mieux pour montrer la voie.
Les coéquipiers de Dempsey ont également rencontré la presse. Ils sont optimistes et se disent impatients d'en découdre avec le Brésil. L'entraîneur Klinsmann est réaliste.
On s'attend à ce que l'Allemagne gagne. Je ne pense pas que nous espérons gagner la Coupe, mais nous voulons certainement aller loin. Nous voulons bien jouer.
Team USA ouvre sa campagne mondiale à Natal le 16 juin contre le Ghana, une équipe qui l'a éliminée aux deux précédentes Coupes du Monde. Le dernier match de mise en condition de l'équipe américaine est prévu le 7 juin contre le Nigeria en Floride.
C'est un peu ça. Et vous savez, Robert, j'habite non loin de, dans un coin où il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de bars. Les Américains vraiment se préparent. Ils savent bien, ils disent qu'ils n'iront pas loin, mais ils sont préparés quand même à bien jouer. Les fans sont préparés et Robert, ça chauffe.
Alors, merci Roger Buntu. Alors, les États-Unis vont jouer dans ce groupe difficile dont on a mentionné les deux gros cylindrés, l'Allemagne et le Portugal. Et il y a aussi le Ghana, donc ce sera le match d'ouverture pour les Américains le 16 juin. Alors, Bagassi, je recommence avec vous. Parlons un peu des Black Stars. Alors.
Oui, c'est quand même une très bonne équipe. Ils ont de très bons éléments. Presque tout le monde est là. Tous les cadres ghanéens, que ce soit Michael Essien et les autres, ils sont tous là.
Samuel Dian,
les frères Ayoul. Donc, ça fait que les Ghanéens sont quand même assez sereins. Et bien sûr, ils ont un marabout qui les aide. Comme on a vu ce matin dans les dépêches disant que...
Ah oui, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire le marabout qui voulait jeter un sort sur Cristiano Ronaldo.
Qui avait jeté le sort déjà.
Mais au-delà de ça,
les
Black Stars, c'est vraiment l'équipe la plus, on va dire, la plus régulière de ces dernières années. Elle se souvient, l'Afrique a pleuré, c'était en Coupe du Monde 2010, ce quart de finale contre l'Uruguay. C'est vraiment l'équipe la plus régulière des cinq qui sont qualifiés, avec beaucoup de trophées notamment qui ont été conquis dans les groupes, dans les catégories de jeunes, les juniors notamment et les cadets. Donc il y a vraiment une attente très très forte sur ces Black Stars du Ghana qui sont en plus, et ça c'est une performance comme les Nigérians, qui sont entraînés par un entraîneur local. Et ça, encore une fois, il faut tirer son chapeau parce que ça n'arrive pas souvent.
Et généralement, on les appelle les Brésiliens d'Afrique, les Ghanéens.
Mais c'est aussi le succès d'un système de formation. C'est très important ce que vous venez de dire. C'est aussi un système de formation. Et je pense que c'est quelque part, c'est une première en Afrique parce qu'il y a des talents. Des talents, on les voit éclore un peu partout. Mais il n'y a pas forcément les systèmes de formation pour amener ces jeunes au plus haut niveau international. Donc, j'aimerais qu'on passe maintenant au Nigeria, justement. Nico, alors qu'est-ce que vous attendez des Super Eagles cette année, qu'on retrouve assez régulièrement en Coupe du Monde quand même?
Assez régulièrement, qui vont affronter évidemment leur habituel adversaire en Coupe du Monde, l'Argentine et évidemment. Bon, le Nigeria, on avait suivi avec Bagassi la Coupe d'Afrique des Nations 2013 qui avait été remportée par les Super Eagles. Là encore, on a Stéphane Keshi, sélectionneur local, qui entraîne cette équipe. On a les stars comme Obi Mikel, on a Moses notamment qui joue à Liverpool. On a envie de dire que sur les cinq équipes africaines, les deux équipes anglophones sont les favorites. Ça ne va pas être facile non plus pour les Nigérians. On a ce match un peu piège contre l'Iran. On ne sait pas trop quoi en attendre. Ce premier match de Coupe du Monde face à une équipe iranienne dont on ne sait pas vraiment jauger la qualité. Et il y aura après le match contre la Bosnie-Herzégovine. Alors peut-être que si les Nigérians fonctionnent bien, peut-être que finalement le match contre l'Argentine sera un match sans pression, ce qui permettrait peut-être aux Nigérians de jouer peut-être plus relâché, puisque la dernière fois en 2010, ils avaient été battus 1-0 par l'équipe de Lionel Messi.
Alors considérez-vous justement, je vous laisse.
Oui, un joueur nigérian dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est Sande Imba, qui était le buteur lors de la finale contre le Burkina Faso en Afrique du Sud, lors de la finale de la CAN, qui n'a pas été retenu par Stephen Keshi. Certains n'ont pas apprécié au Nigeria. Et aussi, il faut noter que le dernier match amical du Nigeria contre la Grèce, qui s'est soldé par un score vierge, a fait quand même avoir des doutes sur la qualité de l'attaque nigériane, qui quand même a balancé pas mal de balles en l'air. Et on se demande en Coupe du Monde si des attaquants ratent le cadre plusieurs fois. Ça peut quand même faire perdre, quoi.
D'accord. Et évidemment, comme vous le disiez, Nicolas, l'Argentine va être l'adversaire du Nigeria dans ce groupe. Bon, l'Argentine, peut-on véritablement les considérer comme un des favoris cette année pour emporter ce trophée?
Moi, j'ai le même sentiment que le Portugal. L'Argentine, depuis des années, on a eu des grands buteurs comme Batistuta depuis 1994. Et après, on a évidemment Lionel Messi, qui est la star que tout le monde connaît. Mais encore une fois, si vous regardez bien...
Mais qui a marqué moins de buts cette année que les précédentes.
Qui était en dedans cette année, Lionel Messi était en dedans. Alors, est-ce que peut-être que Messi va faire une grande Coupe du Monde? Parce que souvent, quand on rate son année en club, on a une très, très belle Coupe du Monde. C'est un peu les grands joueurs comme ça.
Ils ont un autre avantage que beaucoup d'autres équipes n'ont pas, c'est qu'ils sont latino-américains. Mm-hmm. Donc, c'est un peu sur leur continent. Et généralement, comme on dit, les Coupes du Monde en Amérique latine sont remportées par un pays d'Amérique latine.
Et puis, il y a cette grande rivalité Argentine-Brésil.
Bien sûr. Mais justement, comme vous le disiez en début d'émission, peut-être que l'Uruguay aura son mot à dire cette année.
Oui, absolument. Si Suarez peut participer à la Coupe du Monde, l'Uruguay pourrait peut-être être...
Et le grand handicap aussi pour l'Argentine, c'est Falcao, l'un des grands joueurs.
Pour la Colombie.
J'étais en train de confondre, oui. Pour la Colombie, oui.
Autre club, oui.
Alors, je veux continuer le tour d'horizon des équipes africaines. Bon, votre pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Et au fait, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs...
Il a rétabli la vérité sur les enjeux.
D'accord, exactement. La vérité sur les directeurs. Mais je voulais dire, la VOA, en fait, je voulais te rappeler que la VOA va couvrir la Coupe du Monde en partenariat avec la radio-télévision ivoirienne. Alors, la Côte d'Ivoire, justement, qu'est-ce qu'on lui...
Ils ont quand même...
Une star de 36 ans, Didier Drogba, un entraîneur
très
français.
Très en forme, malgré son âge.
Et un entraîneur français, donc, je crois qu'il entraîne sa toute première sélection. Et
c'est l'entraîneur qui fait beaucoup parler de lui à Abidjan depuis des mois. Les Ivoiriens n'ont jamais été convaincus par... ils ne savent pas qui a eu cette idée d'aller prendre un entraîneur qui n'a pas vraiment dirigé une autre grande sélection nationale. Et ils se demandent, est-ce que vraiment...
Et aucun club.
On a vu les résultats à la Coupe d'Afrique et il est encore là. Et les gens se demandent pourquoi, d'ailleurs, à la première place, on a écarté l'entraîneur local ivoirien qui a pu amener l'équipe jusqu'en finale. C'est vrai, ils n'ont pas pris la coupe,
mais il a été écarté. C'est vrai que c'était incompréhensible.
Mais on espère que Fabrice Lamoussi a dû se rattraper. Il a dû faire un travail entre-temps pour se racheter. Et l'équipe qui est là, ce qu'on a vu... On ne peut pas se plaindre.
Vous avez quand même des joueurs de qualité. Vous avez Yaya Touré, vous avez Gervinho. Les défenseurs, la défense, c'est quand même du solide. Et je crois que peut-être aussi l'avantage d'avoir un entraîneur inexpérimenté, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est quand même du solide. C'est des joueurs qui jouent ensemble depuis quand même assez longtemps. Pas forcément pour une grande réussite, puisque pour le moment, il n'y a toujours aucun trophée dans l'escarcelle des éléphants, génération Didier Drogba. Mais je pense que l'inexpérience de Sabri Lamouchi est compensée
par
l'expérience des joueurs, et notamment évidemment Didier, Gervinho et Yaya Touré.
D'accord. Alors, on parlait quelques minutes du succès du système de formation ghanéen. Pensez-vous tous les deux, je vais commencer avec Bagassi, pensez-vous qu'on s'approche de l'heure africaine en Coupe du Monde? Prévoyez-vous une victoire finale pour un pays subsaharien à court ou à moyen terme?
Là, je ne sais pas, mais je sais que ça vient parce que, comme vous voyez, prenez la Côte d'Ivoire avant Drogba. Il n'y avait pas autant de joueurs ivoiriens un peu dominants dans les championnats en Europe. Chaque pays où vous passez, vous allez trouver un joueur ivoirien qui est le meilleur à son poste ou l'un des meilleurs à son poste, que ce soit à la défense, au milieu avec Yaya Touré ou avec Didier Drogba. Ce qui fait qu'on sent un certain progrès Et peut-être d'ici quelques années, la génération qui va suivre, on aura suffisamment de joueurs pour former une équipe qui peut remporter la Coupe du Monde.
Mais Bagassi a raison, en termes de talent, les Africains n'ont plus rien à envier aux autres clubs.
Bien sûr.
On l'a redit, le Ghana est arrivé en quart de finale en Afrique du Sud, on peut légitimement espérer un quart de finale cette année. Après, peut-être ce qui va manquer, c'est cette petite alchimie dans l'équipe.
Parce que avant, quand on partait en Coupe, en phase finale de coupe, que ce soit Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, on avait beaucoup de joueurs de Ligue 2 qui étaient de deuxième division de championnat qu'on appelait parce que on n'avait pas suffisamment de professionnels de grande carrure pour former une ossature nationale. On appelait un peu tout le monde.
Oui, là, c'est vrai qu'on a des joueurs de qualité. Et puis, ce qui est intéressant, moi, je le rappelle, coup de chapeau au Nigeria et au Ghana. On a deux entraîneurs africains qui vont entraîner leurs propres équipes. Ça montre aussi peut-être le regain de confiance dans les techniciens africains. Ouais. C'est ce qui manque. Mais je crois que ce qui manque avant tout, c'est une alchimie particulière qu'on a trouvé un petit peu en 2010 avec le Ghana, il y avait ce grain de folie, et il y avait cette cohésion de l'équipe. Et je crois que l'équipe africaine qui réussira, ce ne sera pas forcément l'équipe africaine la plus talentueuse avec des grandes stars, mais une équipe qui sera soudée et qui, notamment, on l'avait vu avec la Zambie qui avait remporté la Coupe d'Afrique en 2012, et notamment le Ghana qui avait été en quart de finale en 2010.
L'équipe du Burkina Faso qui est allée jusqu'en finale, les joueurs étaient soudés, c'est
tout
ça qui les a beaucoup aidés.
Oui.
Alors, dernière question sur une équipe africaine. On a vu les Fennecs d'Algérie en Coupe du Monde il y a 4 ans, la toute dernière fois. C'est lorsqu'ils ont pris ce but de la défaite contre les États-Unis et Landon Donovan. Quelle impression vous font les Fennecs version 2014?
Ils ont une très, très bonne préparation parce qu'ils ont, sur les 4 derniers matchs, 4 victoires, 2 buts encaissés seulement. Pour le moment, ils sont très tranquilles. Alors, il y a juste eu quelques incidents hier à Genève, jet de projectiles des supporters. Mais au-delà de cette péripétie, la préparation pour le moment est plus ou moins dans la sérénité. Et ça, c'est quand même rare. On a un entraîneur très expérimenté qui aura à cœur de prendre sa revanche. C'est évidemment Vahid Halilhodžić, qui avait été écarté au dernier moment par les Ivoiriens et donc qui a envie de prouver au monde, justement. Et clairement, l'Algérie, ce n'est pas l'équipe la plus dont on parle le plus en Afrique, mais c'est peut-être l'équipe qui va réussir à sortir de ce groupe homogène avec la Belgique, la Corée et la Russie. Hein, donc
Une autre équipe, alors pour la France, c'est bien simple. Depuis 1998, soit ils sont en finale, soit ils sont éliminés au premier tour.
Sauf 2010. Nesna, c'était la catastrophe.
Alors justement, la France joue dans le groupe E avec l'Équateur, la Suisse et l'Honduras. Très rapidement, groupe facile pour les Bleus?
Non, groupe piège. Je pense que le match d'ouverture de ce groupe contre le Honduras donnera vraiment le ton. On a une grosse incertitude sur Franck Ribéry, le meneur de jeu, qui est toujours très mal au dos, qui pourrait ne pas aller au Brésil. S'il ne joue pas le match amical contre la Jamaïque, il pourrait ne pas s'envoler avec le Brésil.
Y a-t-il véritablement un leader dans cette équipe?
Non, pas vraiment.
Non.
Je crois que sur le jeu, on a des grands joueurs comme Benzema, on a Nasri qui n'a pas été évidemment.
On l'a vu sur les derniers matchs de qualification avec l'Ukraine.
Moi, c'était poussif. Hein.
C'était quand même.
L'Équateur a joué un très, très, très beau match contre l'Angleterre. Et vous avez vu ce deuxième but de l'Équateur contre l'Angleterre? Absolument superbe. Donc, c'était vraiment un match superbe. Ce sera justement l'adversaire des Bleus. Alors, je veux rapidement conclure cette émission. On fait signe à la régie qu'on a encore une minute qui nous reste. Alors très rapidement, un rappel de la couverture par la VOA de cette Coupe du Monde dans Sporama. Et puis il y aura un journal de la Coupe du Monde tous les jours. Voilà.
Alors oui, évidemment, donc tous les matins et tous les soirs, journal de la Coupe du Monde en direct du Brésil, où j'aurai le plaisir évidemment de vous retrouver. Et puis Bagassi qui
sera ici au studio pour coordonner avec non seulement Nicolas, mais aussi nos correspondants sur le continent. On aura notamment le coup de sifflet de Gilles Valentin Ngoué, un de nos meilleurs spécialistes en matière de football en Afrique.
Et peut-être juste rappeler à tous ceux qui nous suivent, voabrésil2014.com, c'est le site internet dédié qui est créé spécialement. Vous aurez tous les résultats, vous aurez les vidéos et les photos. Donc on rappelle, pour bien noter, voabrésil2014.com.
Alors, dernière question à tous les deux. Je commence avec Bagassi, votre favori pour cette compétition?
N'importe quelle des équipes africaines. Hein.
D'accord. Mais quand je dis, votre favori pour remporter le tournoi, qui voyez-vous remporter le tournoi?
L'Argentine.
D'accord. L'Argentine. Nicolas?
Le Brésil à domicile. Brésil à domicile, et pour un petit peu pacifier ce pays qui a beaucoup protesté, mais qui est un pays fan de football. Et je pense que ça pourrait ramener un peu de fête dans ce pays, au-delà évidemment de la contestation.
Moi, je dirais le Brésil simplement parce que les Brésiliens n'accepteront rien de moins. Eh bien voilà, Washington Forum prend fin ici pour cette semaine. Vous pouvez suivre la Coupe du Monde sur la VOA avec les reportages de Nicolas Pineau, avec le journal de la Coupe du Monde et sur Sporama, le grand direct du lundi. Merci à nos invités, à toute l'équipe de Washington Forum. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine.